Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, comme tous les jours, vous le savez. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une le nouveau gouvernement qui va être annoncé cet après-midi, nous dit l'Élysée. Qui sont ceux qui restent? Qui sont ceux qui partent? Qui sont les nouveaux? On va vous dire tout ce que l'on sait. Premier cas confirmé de variole du singe en France. Le malade est un homme de 29 ans. Nos informations dans un instant avec Yasmina Katou. On ira à Plogoff en Bretagne après ce dramatique accident qui a coûté la vie à 3 membres d'une même famille sous les yeux des 3 autres membres de cette famille. Ils ont été emportés par une vague alors qu'ils étaient sur une digue. Mbappé, Kylian Mbappé, fin du suspense dimanche. Normalement, on saura s'il part au Real ou pas. Nouveau gouvernement, qu'en attendez-vous? On en parle avec vous au 39-21 et avec Pierre-Yves Bournazel, chef du pôle élection d'Horizon qui va arriver dans quelques instants, et avec vous Amine Elbaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orateur national Les Républicains. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Europe 1.
On nous l'annonce donc pour cet après-midi, la composition du nouveau gouvernement. Le président de la République et la première ministre sont à la manœuvre, bien sûr. Tous ceux qui espèrent entrer dans l'équipe font bien attention au fait que leur portable soit bien allumé. Jacques Serret avec nous du service politique d'Europe 1. Bonjour Jacques.
Bonjour Romain.
Jacques, dites-nous ce que vous savez de cette nouvelle équipe.
Eh bien, l'entourage du président évoque l'arrivée de nouvelles personnalités, même si un certain nombre de ministres déjà en poste devraient rester. Gérald Darmanin devrait garder le ministère de l'Intérieur, mais avec un périmètre élargi. Bruno Le Maire devrait rester à Bercy au ministère de l'Économie. D'autres restent dans le gouvernement, mais en changeant de portefeuille. Ainsi, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer, est pressenti pour devenir le ministre de la Défense, même si cette possibilité fait encore l'objet de discussions. Gabriel Attal, qui était porte-parole du gouvernement, devrait obtenir le ministère du budget. Olivia Grégoire, jusqu'à présent chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, pourrait justement succéder à Gabriel Attal au porte-parole du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, qui était à l'industrie, devrait hériter d'un ministère de l'énergie. Jean-Michel Blanquer, pardon, Marlène Schiappa, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian, eux, font leur carton. Côté nouveaux entrants, une surprise est attendue du côté du Quai d'Orsay. Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne, est pressentie pour devenir ministre des Affaires étrangères. Enfin, la conseillère culture d'Emmanuel Macron, Rima Abdul-Malak, pourrait elle succéder à Roselyne Bachelot au ministère de la Culture.
Anne-Marie Descôtes aux Affaires étrangères, Sébastien Lecornu pourrait être à la Défense, Gabriel Attal pourrait être au budget. C'est ce que je retiens avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui garderait son ministère
mais avec un périmètre élargi.
Périmètre élargi, Bruno Le Maire garderait l'économie. Voilà ce que l'on sait et ce que l'on vous dit à midi 2. Merci beaucoup Jacques Serret. Après 2 ans de pandémie, c'est le genre d'information qui ne peut pas nous laisser indifférents. Rien à voir avec le Covid. On vous parle de la variole du singe. Le virus arrive en Europe et en Amérique du Nord, où les foyers de contamination se multiplient. Une 50aine de cas avérés à ce stade dans le monde. Une propagation inhabituelle pour un virus apparu dans les années 70 en Afrique. Et Yasmina Katou, bonjour Yasmina.
Bonjour Romain.
En France, un premier cas d'infection a été confirmé ce matin en région parisienne.
Alors, découvert hier du premier cas en Île-de-France, il s'agit d'un homme de 29 ans. Il a été pris en charge et en l'absence de gravité des symptômes, il a été isolé à son domicile. De la toux, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, la variole du singe peut faire penser à une grippe ou au Covid. Mais de gros boutons, de sortes de cloques, peuvent se répandre sur tout le corps. Une fois infecté, les symptômes mettent entre 6 et 21 jours à apparaître. La variole du singe est un virus qui se transmet très facilement. De l'animal à l'homme, explique le professeur Pierre Tadevin. Il est vice-président de la Société française des pathologies infectieuses.
En fait, c'est un virus qui n'a pas une très grosse spécificité d'espèce. Donc, il peut passer du singe, par exemple, à des rongeurs. Il y a eu des épidémies aux États-Unis qui sont passées comme ça et repasser à l'homme après. C'est-à-dire qu'il n'est pas très sélectif dans ses proies. Il peut passer sur différentes espèces de mammifères.
La transmission se fait par contact physique. Pour l'instant, on ignore la cause de la toute première contamination qui a été détectée au Royaume-Uni. Pour la variole du singe, il n'existe pas de traitement, mais la maladie guérit souvent d'elle-même.
Yasmina Katou, merci beaucoup pour ces informations. Fermeture de nuit, délestage sur d'autres hôpitaux accès filtré pour certains SAMU, faute de soignants. Au moins 120 services d'urgence en France ont été forcés de limiter leur activité ou se préparent à limiter leur activité, selon une liste qui a été établie par une association. L'association SAMU Urgence de France, dans 60 départements qui couvrent les 12 régions continentales et Mayotte, au moins un service doit s'incliner face à des difficultés insurmontables. Manque de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, une situation qui inquiète. Pourquoi ? Notamment parce qu'elle survient très tôt dans l'année. C'est ce que nous dit le professeur Louis Soula, il est porte-parole et vice-président de cette association SAMU Urgence de France.
Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que, un, ça commence très tôt dans la saison, c'est-à-dire que dès le mois de mai, des structures d'urgence sont fermées, et cela impacte à la fois des grosses structures et des moyennes, ce qui n'était pas le cas habituellement. Je crois que le terme est adapté, catastrophique, sauf que la catastrophe dure. On sort du Covid, et là, à peu près un tiers des services d'urgence sont en difficulté, conduisant à une fermeture pure et simple des services, soit partielle, avec des lignes de garde incomplète et donc une suractivité pour les praticiens qui restent. Le week-end, l'ascension sera certainement très dure dans beaucoup d'endroits. Donc on veut filtrer cet accès aux urgences et c'est le message national que l'on veut faire passer.
Voilà le professeur Louis Soula qui répondait à Yasmina Katou. Le drame absolu, tout un village breton et bien au-delà est effondré. Un homme, sa femme et leur fils adolescent étaient en train de pêcher sur une digue lorsqu'ils ont été surpris par la houle hier en fin de journée. Ces trois membres d'une même famille donc ont été retrouvés morts en début de soirée à Plogoff dans le Finistère après avoir été emportés par une vague. La mer était agitée, la météo elle n'était pas véritablement défavorable, Charles Guyard.
Oui, malgré un important dispositif déployé dès les premières alertes reçues peu après 18h30 avec notamment trois hélicoptères envoyés sur zone, le bilan est terrible. Trois victimes d'une même famille, la mère 33 ans, le père 55 ans et l'un de leurs enfants âgé de 12 ans. C'est le corps de cet ado qui a été repêché en dernier après plus de 3 heures de recherche alors que la nuit commençait à tomber. Circonstance d'autant plus épouvantable, les trois autres enfants du couple âgés de 13 à 15 ans ont assisté impuissants au drame. À Plogoff, commune de 1200 habitants, non loin de la pointe du Raz, c'est la consternation et l'incompréhension. Le maire Joël Yvenou.
Je suis totalement bouleversé. Je ne comprends pas. Il n'y a jamais eu de problème dans ce port. Ce n'est pas un endroit qui est manifestement dangereux. Mais on ne va pas sur une digue quand il y a la mer qui passe par-dessus. Et quand je suis arrivé, moi, il était 18h45. Ça passait dans tous les sens. Hein. Il y avait de la houle, énormément de houle. Voilà. Il y avait un coefficient de 91. Ce n'est pas un coefficient de 115. Néanmoins, ils étaient sur la digue. Ils ont été projetés avec une grosse vague. Et ils ont pris des risques en voulant voir la mer de plus près. Je n'ai pas la réponse. Si vous avez un message à faire passer, c'est que les gens soient extrêmement vigilants. On arrive en période estivale. Quand on vient au bord de la mer comme ça, on n'est pas à l'abri de faire une mauvaise rencontre avec la mer.
Et la famille, originaire de la région lyonnaise, vivait à Audierne. C'est à une dizaine de kilomètres du lieu de la tragédie.
Il est midi 7, restez même avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Dans un instant, on va à nouveau parler du manque de personnel, manque de main-d'œuvre. On a parlé du manque de main-d'œuvre dans les restaurants cet été. On va vous parler dans un instant du manque de main-d'œuvre dans les sociétés de transport de personnes. Il manque des chauffeurs de bus pour cet été. Restez bien sur Europe 1, à tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Les vacances approchent, mais certaines sorties, vous allez comprendre, sont déjà menacées par une pénurie de chauffeurs de bus. Les jolies colonies de vacances pourraient donc être plus sédentaires que prévu, comme les restaurants, les entreprises de transport et les collectivités ont du mal à recruter. Conséquence, Noah Moussa, des situations parfois très contraignantes, hein.
Oui, imaginez un retour de journée à la mer et le chauffeur d'un car qui s'arrête sur une aire d'autoroute avec ses jeunes passagers pendant plusieurs heures, faute de second conducteur de car. Un souvenir que Mathieu, l'organisateur de la sortie, n'est pas prêt d'oublier.
On a eu une fois, en fait, un chauffeur qui s'est arrêté de conduire sur une aire de repos parce qu'il avait dépassé son quota d'heures, en fait, à la journée. Mais il n'y avait pas de deuxième chauffeur de bus. Donc, on a dû appeler la compagnie, négocier. Ils ont dû faire venir un chauffeur. Donc, en fait, on s'est retrouvé à attendre 4 heures sur une aire de repos parce qu'ils n'avaient pas prévu de chauffeur. Et en fait, c'était vraiment un problème de manque de personnel.
Une pénurie de conducteurs constatée partout en France. La faute au Covid, explique Jean-Sébastien Barraud, président de la Fédération nationale des transports de voyageurs.
On estime en effet à 7-8 000 le nombre de conducteurs manquants dans les entreprises du secteur. Et puis le phénomène aggravant, ça a été la crise sanitaire, parce que pendant 2 ans, nous n'avions pas de travail et on a beaucoup de conducteurs qui sont partis de notre secteur pour aller rouler notamment dans le transport routier de marchandises.
Et cette pénurie risque de durer cet été, préviennent les professionnels. Les demandes de déplacement en car pour les colonies et les centres de loisirs, elles, sont déjà nombreuses.
Noah Moussa, vous le savez, l'inflation s'invite à notre table. Les pâtes, la farine, l'huile. Mais cette hausse des prix s'attaque même à un symbole de la gastronomie française, la rillette, plus 10 à 15%. En moyenne, forcément, les bouchers charcutiers subissent aussi la crise de l'énergie et la flambée des matières premières. Avec Mathieu Limongi, nous partons à Changer, c'est dans la Sarthe bien sûr, chez un producteur de rillettes médaillé d'or au Salon de l'Agriculture. Le reportage de Mathieu Limongi a changé dans la Sarthe pour Europe 1.
Le porc a pris 20% par rapport au mois de décembre, donc ça vous donne un petit peu l'ampleur des dégâts, on va dire.
Dans le laboratoire de sa boucherie, Mickaël Douard, le gérant, fait les comptes.
En plus de ça, il y a l'énergie qui a doublé par rapport à avant, parce que nos rillettes cuisent 15 heures, donc 15 heures d'électricité, ça coûte cher. Et il y a aussi l'emballage, parce que les pots de rillettes, ils ont pris 30%. À l'abattoir, tous les frais de personnel ont augmenté aussi, dans les ateliers de découpe. Donc le transport pour amener le porc chez nous, bah, c'est pareil, c'est vraiment énorme, quoi.
Une chaîne de production touchée dans sa globalité, alors récemment, Mickaël a dû modifier l'étiquette de son produit phare.
On était à 3,40€ le pot début décembre et début mars on est passé à 3,70€. Nous on a augmenté notre poudrillette de 9% alors que tous nos frais à côté ont augmenté entre 20 et 30%.
Et s'il a su réagir rapidement pour limiter les pertes, la situation reste préoccupante.
Si au mois de décembre on avait dit que le prix du porc il serait au prix d'aujourd'hui, personne n'y aurait cru quoi. Tout le monde ne pensait pas que ça monterait aussi haut. On a quand même des inquiétudes pour d'ici 2-3 mois quoi.
Dans la Sarthe, 16 000 tonnes de rillettes sont produites chaque année, une filière centrale qui pèse plus d'un millier d'emplois.
Le football à présent et la fin du suspense pour Kylian Mbappé. C'est pour bientôt, nous dit-on, selon plusieurs sources. Le joueur va annoncer sa décision ce week-end, celle concernant bien sûr son futur club. Est-ce qu'il reste au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va au Real? À Madrid, les supporters deviennent fous. Bonjour Jean-François Pérez, quelle est la tendance à quelques heures du verdict?
Eh bien, disons qu'elle ne change pas, cette tendance, mais que le stress augmente. C'est à Madrid que ça se passe, bien sûr. Le Real est toujours en pôle pour accueillir Kylian Mbappé. Ce club, c'est son rêve de gosse. Il était d'accord pour rejoindre l'Espagne l'été dernier, mais le PSG l'avait retenu, vous vous en souvenez. Eh bien, il est maintenant libre de son choix. Et ce qui rend les Espagnols très nerveux, c'est le silence du joueur et de son entourage. Un silence pesant et interprété comme une incertitude par les médias madrilènes. Alors, on ne peut pas dire qu'ils aient tort, parce que la star des Bleus joue le jeu du PSG à fond. Il était au Qatar tout sourire en début de semaine. Il était à l'entraînement ce matin. Ses dirigeants lui auraient proposé des conditions jamais vues dans le foot. 100 millions de primes à la signature, 50 millions de salaire annuel, mais aussi et surtout peut-être la possibilité de choisir le nouvel entraîneur, les recrues et même influer sur la marche du club. Voilà, Mbappé a promis une prise de parole avant le rassemblement de l'équipe de France lundi. Ce sera donc soit demain avant le dernier match de la saison au Parc des Princes face à Metz, ce qui serait plutôt bon signe pour le PSG, soit dimanche, loin des supporters parisiens. Auquel cas, vous l'aurez compris, le Real aurait sans doute raflé la mise.
Voilà, on va beaucoup parler de Mbappé ce week-end. On va parler du nouveau gouvernement, mais on va aussi parler accessoirement de Mbappé. Allez, la météo tout de suite avec Anissa Haddadi. Anissa, 17 départements sont en vigilance orange aux orages, hein.
Oui, alors cela concerne les départements situés dans les régions Île-de-France, Haute-Normandie, Hauts-de-France, Ardennes et dans la Marne. Soyez très prudents cet après-midi, les orages risquent d'être localement violents avec des rafales de vent et beaucoup de précipitations attendues par endroits. Dans les Ardennes, on attend jusqu'à 3 semaines de pluie. Ces orages vont durer toute la journée pour s'évacuer ce soir et cette nuit vers l'Allemagne. À l'arrière de cette perturbation, sur l'ouest du pays, notamment la Bretagne et la Normandie, c'est le retour des éclaircies. Sur la moitié sud, rien à dire, hein, il fait beau, le temps est agréable, ensoleillé avec des températures chaudes. Il fait lourd en revanche, hein, on a 34 degrés pour Perpignan et Clermont-Ferrand, 30 à Aurillac et Metz, il fait chaud dans l'Est, 28 à Marseille, 26 pour Ajaccio. Au Nord, grâce aux orages, on respire mieux avec 16 à 21 degrés sur les côtes de la Manche et 25 pour Paris.
Merci beaucoup Anissa, il est midi 15, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi dans un instant. On va débattre, on va vous écouter bien sûr au 39-21 et puis on est avec Pierre-Yves Brunezel. Bonjour Pierre-Yves Brunezel, chef du pôle élection d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, et avec Amine Elbaï, orateur national des Républicains.
Bonjour.
Rebonjour, voilà, on s'est dit bonjour au début. On va évoquer évidemment le nouveau gouvernement qui va être annoncé dans l'après-midi. A tout de suite.
Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39-21. 50 centimes la minute.